Bonsoir à tous, merci d'être là. On est ravis de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence Mayday sur le thème donc, de la valorisation d'une entreprise dans un contexte de sous-performance. Merci à Odéris de nous accueillir dans ses locaux et merci à Mathieu et Philippe pour leur présence. Alors Philippe, tu es associé au sein de la pratique restructuring d'Odéris et Mathieu, tu es quant à toi associé au sein de la pratique évaluation. On va voir au cours de cet échange que finalement vos deux pratiques sont assez complémentaires dans le cadre lorsque vous accompagnez des entreprises dans un contexte de sous-performance. Alors pourquoi ce thème ? C'est un thème finalement d'actualité qui est revenu pas mal sur le devant de la scène ces derniers temps avec notamment la mise en place des comités de créanciers. La question de savoir si un créancier est ou non dans la monnaie, ce qui entraîne une nécessité de valoriser l'entreprise dans un cadre de plan de cession ou de liquidation. Mais en réalité, c'est un sujet beaucoup plus large et on va voir qu'on le retrouve à tout niveau dans un contexte de sous-performance. Et donc notre objectif ce soir, à travers cet échange, c'est de comprendre concrètement dans quel cas vous êtes amené à valoriser une entreprise ou ses actifs dans un contexte de sous-performance, c'est-à-dire un contexte de difficulté par rapport à un marché de référence, voire des difficultés plus profondes dans un cadre judiciaire, et de comprendre ensuite si les méthodes de valorisation utilisées habituellement dans un cadre in bonis peuvent être adaptées à ces contextes, alors même que en fait, le postulat de départ est assez différent, notamment en question de cash et de continuité d'exploitation. Petit point technique, on a des micros, c'est pas pour parler fort, c'est juste qu'on enregistre en même temps cet échange qu'on retranscrira en podcast après. Voilà, et n'hésitez pas à intervenir au cours de cet échange pour qu'on partage tous ensemble. Alors Mathieu, pour commencer, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les grandes lignes d'abord des méthodes classiques de valorisation d'une entreprise ?
Oui, merci de l'introduction, bienvenue à tous. Donc juste en deux mots, je dirige effectivement la pratique évaluation chez Odéris, j'ai commencé chez Accuracy et ensuite j'ai fait 15 ans chez EY. Et donc j'ai souvent travaillé dans des cabinets qui étaient à la fois sur la pratique restructuring et sur la pratique évaluation. Donc ça fait effectivement un petit moment que je peux intervenir dans ce genre de contexte et qu'on voit toute la richesse des échanges qu'on peut avoir avec Philippe et ses équipes. Juste effectivement, avant de commencer sur la notion de sous-performance, un petit rappel des méthodes que vous connaissez très probablement pour la grande majeure partie d'entre vous. Je vais citer les deux, trois principales, parce qu'on verra derrière que finalement, on reviendra finalement assez rapidement vers ces méthodes-là, y compris dans des contextes de sous-performance. La méthode principale dans un contexte transactionnel qu'on voit, c'est évidemment la méthode des multiples ou la méthode des comparables, qui est finalement assez simple à comprendre dans son principe. J'essaye de trouver des sociétés qui me ressemblent et dont je connais la valeur. J'en tire un multiple de valorisation. Je l'applique à ma propre société ou à la société que je dois valoriser. Et je considère que j'ai déjà une bonne approximation de ma valeur sur le marché. Ça, c'est toutes les méthodes analogiques et toutes les questions qu'elles peuvent sous-tendre sur le bon choix de l'agrégat, le bon choix du multiple, etc. La deuxième grande famille de méthodes, c'est une méthode qui est beaucoup plus axée sur la société elle-même et qui est fondée sur les cash flows futurs. Donc globalement, une société ne vaut que par sa capacité à générer des cash flows dans un horizon long terme. On verra que c'est également une des méthodes qu'on peut réutiliser dans un cadre de sous-performance. Et il y a évidemment d'autres méthodes. La dernière que je citerai, qui est un petit peu moins utilisée, sauf dans des contextes assez particuliers, c'est plus les méthodes qui ont trait à l'actif net comptable ou à l'actif net réévalué, qui sont plus des méthodes additives. Je m'interroge sur la somme de tous les actifs qu'une société a à son bilan ou à hors bilan. Je les ajoute, j'enlève les passifs et j'ai également une approximation de la valeur de ma société. Voilà pour les grandes familles de méthodes. Et à nouveau, on sera amené à en reparler dans le cadre de cette conférence.
Parce que c'est vrai, comme ça, de prime abord, ce n'est pas des méthodes qu'on imagine bien transposables, entre guillemets, telle quelle, dans un contexte de sous-performance. Alors peut-être, toujours pour rester dans le contexte, Philippe, tu peux nous redire les cas dans lesquels tu as appelé pour travailler sur des questions de valorisation.
Oui, donc bonsoir à tous. effectivement, Philippe est en charge de la practice restructuring également. On est très fiers de vous accueillir. Ça vient un peu tard, je suis désolé, mais je ne voulais pas vous interrompre. Donc effectivement, alors moi je fais ce métier depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Ça me donne un peu de recul sur le métier. Je voudrais déjà un peu poser le contexte du restructuring. En fait, en presque 30 ans d'activité restructuring, j'ai vu quand même le métier se professionnaliser. Ça contribue aussi à ce qu'on va se dire après. C'est-à-dire que le métier n'est plus fait aujourd'hui par les mêmes personnes qu'il y a 30 ans. Il n'est pas fait de la même manière. L'approche a beaucoup changé. En tout cas, elle s'est renforcée, elle s'est encore une fois professionnalisée. Je me souviens que les premiers dossiers, c'était, il fallait surtout démontrer aux partenaires bancaires avec qui on discutait la capacité de génération de cash à court terme, puis on essayait de positionner des remboursements de dettes cohérents. C'est toujours le cas, je vous rassure, la méthode a pas changé. Mais maintenant, il y a quand même, on sent bien chez les partenaires avec qui on discute, donc les créanciers principalement, une volonté de se poser, de prendre un peu de hauteur et de se poser la question de savoir quelle est la valeur de l'actif au regard de la valeur de la dette. Alors, c'est notamment vrai après les crises successives qui se sont enchaînées depuis une dizaine d'années. Et très récemment, on peut dire qu'on les accumule. Donc, crise sanitaire, géopolitique, de l'énergie, enfin tout ça étant en partie lié, pas complètement. Et donc, avec un niveau de dette des entreprises qui s'est sensiblement accru. Et donc, le sujet devient un peu structurant. Et on pourra échanger avec ceux qui vivent ça au quotidien également. Mais et je trouve encore plus depuis le début de l'année 2023. Où il y a vraiment un sujet de se dire la restructuration s'inscrit dans quel contexte et effectivement quelle est vraiment la valeur de mon actif au regard de ma dette. Depuis sur les 9 derniers mois en préparant cette conférence avec Mathieu, on a regardé, on a 4 ou 5 dossiers qui vont un peu illustrer de manière anonyme, je vous rassure, les exemples qui vont vous pouvoir, en tout cas la démonstration qu'on va essayer de vous faire ce soir. Enfin, l'exposé plus que la démonstration. Et c'est, je pense que j'ai fait autant de dossiers avec toi, Mathieu, en 9 mois que j'ai pu en faire sur les années avant de mes expériences EY et Deloitte, parce que je viens aussi de grands cabinets. Donc ça, c'est le premier élément. Donc quand on regarde les contextes dans lesquels on intervient, j'en ai retenu 3 et qu'on développera au travers d'exemples plus concrets. Donc la première situation où on va avoir besoin d'une évaluation dans ce contexte-là, c'est quelle est la valeur de mon actif, tout simplement, encore une fois, en regard de ma dette, et surtout se poser la question, comme tu le disais, Guenel, c'est de dire qui est dans la monnaie. Quels sont les créanciers, enfin, entre guillemets, déjà, la première question, c'est est-ce que l'actif, enfin, le groupe que l'on regarde, a une valeur potentielle supérieure à sa dette. Donc, si c'est oui, ça commence bien. C'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-là, c'est effectivement qui va être dans la monnaie et qui ne va pas l'être. Et la réforme de la loi, alors je ne vais pas vous faire un cours technique sur la réforme de la loi, en plus je ne suis pas le mieux placé pour le faire, mais de septembre 2021 avec les classes de parties affectées qui ont remplacé les comités de créanciers, s'inscrit un peu dans cet état d'esprit de rééquilibrage entre guillemets de pouvoir entre les créanciers d'un côté par rapport aux actionnaires, même si tout ça on est encore au début je pense. Mais il y a cette notion de celui qui est dans la monnaie, entre guillemets, un pouvoir renforcé par rapport à celui qui n'y est pas. Ça, c'est quand même un élément un peu nouveau. Et puis après, se pose la question de savoir quel est le meilleur plan. Est-ce que c'est le plan qui est proposé ou est-ce que sur un plan alternatif, les créanciers qui ne sont pas dans la monnaie ne seraient pas mieux traités. Bon, je ne vais pas faire un cours technique, je m'arrête là. Mais le premier cadre, c'est de dire à la fin du jour quelle est la valeur de mon actif au regard de sa dette. Le deuxième contexte, et encore une fois de plus en plus fréquent là, sur les derniers mois, c'est des contextes où les partenaires sont prêts à discuter et à trouver des solutions de réaménagement, mais demandent en contrepartie de la réinjection de new money. C'est de plus en plus fréquent. Et dans ce contexte-là, se pose la question de savoir si l'actionnaire en place peut ou veut remettre de l'argent. Donc si ce n'est pas le cas, si soit il ne peut pas, soit il ne veut pas, et dans ce cas-là, il faut trouver un nouvel investisseur potentiel, en majoritaire ou en minoritaire, ou, cas encore récent que l'on a eu, il y a plusieurs actionnaires, il y en a un qui veut, qui est prêt à remettre, et l'autre qui ne veut pas ou qui ne peut pas. Et dans ce cas-là, se pose la question de savoir quelle est la valeur de la société, puisque celui qui va remettre de l'argent, avec à combien de capital il va avoir droit, quel est le phénomène dilutif et autres. Donc ça, c'est le deuxième contexte qui arrive assez régulièrement maintenant. Et le troisième contexte, bah c'est effectivement, je suis dans un groupe en difficulté, mais j'ai un actif qui a de la valeur et qui, dans le contexte d'une restructuration globale, pourrait être cédé et contribuer, entre guillemets, à cet apport de new money si personne n'est capable d'en remettre. Donc se pose la question, là, de la valeur de cession ou de carve-out, entre guillemets, de l'actif, avec une volonté que l'opération ne soit pas remise en question si ça ne se passe pas comme prévu. Donc c'est dans ces contextes-là que l'intervention d'un tiers externe et reconnu en évaluation a du sens. Pour valoriser l'actif, mais également pour valoriser, en fait, plutôt dire le groupe, une fois qu'il aura cédé son actif, d'abord, est-ce qu'il a de la pérennité ? Bon, ça, c'est plus mon rôle à moi en tant que restructuring. Être capable de démontrer que, postérieurement à la cession, le groupe en difficulté a encore une pérennité et ne va pas tomber quelques mois après, ce qui poserait quelques sujets. On peut aussi se poser la question de la valorisation du groupe post-cession. Donc, sont vraiment dans ces contextes que on va illustrer au travers de cas un peu plus concrets qu'on intervient de manière commune.
Parce que c'est vrai que dans ces trois cas que tu cites, est-ce qu'on peut vraiment utiliser des comparables avec une entreprise qui est finalement plus dans la norme, ou utiliser la méthode des cash flow avec une entreprise qui est en manque de trésorerie, c'est quand même, ça les caractérise pendant cette période. Donc je m'adresse un peu à tous les deux, mais comment vous transposez ces méthodes dans ce contexte-là de sous-performance ?
Alors, peut-être en guise d'introduction avant, c'est de dire l'avantage de travailler ensemble, c'est que il y a une partie du travail qui est fait et qui est plutôt, enfin tu le diras avec tes mots Mathieu, mais qui est plutôt assurant pour l'équipe de Mathieu, c'est-à-dire qu'en fait il va, pour faire sa valorisation, s'appuyer sur nos travaux d'IBR, Independent Business Review, pour ceux qui sont moins familiers avec ces termes-là. Donc en gros, c'est pour appeler ça avec un mot français, donc revue indépendante de la situation actuelle et surtout des perspectives. Donc nous, on va émettre un avis critique sur le plan de redressement et on va faire des sensibilités. Je pose une question tout de suite à Mathieu, c'est comment il traite nos sensibilités dans les contextes de valorisation. Donc les sensibilités, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est de dire le plan du management prévoit que ça se redresse à cette vitesse-là. On identifie forcément un certain nombre de risques dans le plan, des choses qui pourraient ne pas se réaliser comme prévu. Et donc, on va essayer de valoriser ces risques-là pour, dans le cadre de cette analyse de sensibilité, de dire que ce n'est pas une correction du BP, c'est plutôt le chiffrage de zones de risque pour dire si ça ne se passe pas comme prévu ou si ça prend plus de temps que prévu, quel est le plan un peu dégradé.
Alors, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, mais en fait, il n'y a pas de méthode magique adaptée à la sous-performance. La réalité, c'est qu'on adapte finalement les 2-3 méthodes que je vous ai exposées en préambule. Alors, on essaie de les adapter de manière intelligente. Si je recommence par la première méthode, qui est vraiment une méthode qui est très utilisée dans un contexte transactionnel et qui est en fait utilisée dans des contextes de sociétés qui vont plutôt bien, qui peuvent être en très forte croissance, qui est donc la fameuse méthode des multiples. Alors, celle-ci, elle est vraiment finalement très peu adapté à des conditions de sous-performance pour une raison assez évidente et assez simple à comprendre. Hein. On appuie souvent cette méthode sur des notions de résultats, des EBITDA, des EBE, des résultats d'exploitation. Si on est sous-performant, si on a des problèmes de cash, c'est évidemment qu'on a des rentabilités qui ne sont pas normatives. Donc on a des gens chez nous qui font très bien des exercices, des EBITDA normatifs, etc. Dans le cas présent, on voit bien qu'on est dans un creux et que l'objectif, c'est de revenir à des niveaux de rentabilité normales ou normalisés. Donc, appliquer cette méthode-là reviendrait à pouvoir trouver sur le marché des sociétés qui me ressemblent non seulement dans mon secteur d'activité, mais qui sont également dans la même pente de croissance et dans la même pente de sous-performance. Autant dire que c'est quasiment impossible. Sur le marché boursier, ça va être compliqué d'aller trouver des comparables qui affichent les mêmes perspectives que moi. Et dans un cadre transactionnel, ce sera encore plus compliqué, puisque on va avoir potentiellement une profondeur de marché assez importante sur des sociétés qui vont bien, beaucoup moins sur les sociétés qui vont moins bien. Donc c'est vrai que cette méthode-là, on l'exclut quand même assez largement. Et on revient assez naturellement alors à une méthode qui est pas forcément la plus utilisée par les professionnels de l'investissement. Je pense que les fonds utilisent finalement assez peu cette méthode-là, sinon de manière corroborative. Mais donc c'est la fameuse méthode par les cash flows futurs, et qui, si elle est pas très utilisée par les fonds, est en revanche souvent utilisée par les évaluateurs, parce que c'est une méthode qui permet de faire plein de choses, et qui en particulier permet de mettre en place un certain nombre de scénarios. Il ne faut pas oublier qu'en fait, cette méthode-là, quand vous la voyez réalisée sur une société qui va bien, en général, vous avez un scénario, un DCF, et alors vous pouvez avoir des tables de sensibilité sur le taux d'actualisation, sur telle ou telle marge d'EBITDA à terme, mais on oublie un peu trop régulièrement que le concept qu'il y a derrière cette méthode, c'est qu'on est censé normalement faire plusieurs scénarios et probabiliser ces scénarios en fonction de leur probabilité d'occurrence. Alors comme c'est un peu compliqué, en général on n'en fait qu'un et on considère qu'il a sinon 100% de chances de se réaliser, au moins que c'est le scénario le plus probable. Et dans un contexte de performance normale, on n'utilise que ce seul scénario-là, mais dans un contexte de sous-performance, le fait de revenir à des scénarios prend tout son sens. Parce que justement, on a beaucoup plus d'incertitudes sur la capacité à retrouver de la croissance, à retrouver de la rentabilité. Et donc c'est là où, Philippe, on s'appuie souvent effectivement sur tes travaux, puisqu'on a déjà eu une analyse du business plan du management, on a déjà eu une analyse critique des zones de risque qui font que ce business plan pourrait ne pas être réalisé conformément à la vision du management. Et donc on a déjà tout un tas d'analyses sur lesquelles nous on va s'appuyer pour sinon donner une valeur qui en tant qu'évaluateur on n'est jamais là pour donner la vraie bonne valeur. La vraie bonne valeur c'est la valeur de la transaction de toute façon. Nous ce qu'on essaye de faire c'est d'objectiver finalement la valeur qu'on pourrait donner à ce business plan là et pour objectiver de la meilleure manière possible c'est vrai qu'on va aller étudier les différents scénarios et proposer au lecteur finalement de notre rapport les différentes zones de risque et en fonction des impacts de tel ou tel paramètre, quel est l'impact sur la valorisation. Donc on aime bien cette méthode-là, donc effectivement la méthode par les cash flows. Alors après, elle suppose quand même de se poser un certain nombre de questions, en particulier sur le fameux taux d'actualisation qui mesure le taux de risque du business plan. Donc là, pour le coup, ça va pas mal dépendre quand même du contexte du retournement dans lequel on est. Si on est sur une crise un petit peu passagère avec une problématique de trésorerie, mais des bons fondamentaux. On peut avoir tendance à considérer que les sensibilités qui sont mises en place par Philippe dans son IBR sont suffisantes pour capter un peu le risque complémentaire du retournement. Et donc, on va utiliser le business plan revu par Philippe, on va utiliser un taux d'actualisation relativement classique et on va voir ce que ça donne en termes de valorisation. Après, on peut avoir des retournements un petit peu plus spectaculaires et donc avec des vrais enjeux en termes de croissance et de retour à la rentabilité. Et là, c'est vrai que c'est le taux d'actualisation qui nous permet de calibrer, selon notre appréciation de l'optimisme du business plan, donc de calibrer le niveau de risque et potentiellement d'utiliser des taux quand même plus importants. Et comme vous le savez, plus le taux est important, plus le business plan va être dégradé et plus la valeur va être basse. Donc ça, c'est vraiment les deux adaptations qu'on peut voir sur la méthode DCF, donc plus de scénarios que dans un mode normal et potentiellement une vraie question sur le taux d'actualisation.
Et je me permets juste une question là, à ce niveau-là. Depuis 2019, on enchaîne quand même un peu des crises qui sont plus ou moins prévisibles. Comment vous les intégrez là dans cette... Alors, ça a changé la manière...
On a eu différentes crises. Le Covid, il y a eu un vrai sujet sur le taux d'actualisation parce que les marchés ont été extrêmement perturbés à une vitesse folle. Mais en réalité, c'est revenu à la normale très rapidement. Donc très honnêtement, le Covid, alors au-delà de la normalisation des cash flows, est-ce que je prends en compte les aides dans mon cash flow normatif, etc. Sur la partie taux d'actualisation, ça a finalement eu assez peu d'impact. Depuis la crise énergétique et la crise en Ukraine, c'est plutôt l'inflation qui pose question. L'inflation pose question parce que, alors évidemment, l'inflation, c'est pas compliqué de la prendre en compte dans un contexte de business plan. L'inflation des salaires, l'inflation des coûts de l'énergie, c'est plus sur la notion de taux d'actualisation, dans quelle mesure l'inflation va venir modifier mon taux d'actualisation, puisqu'on sait que certains paramètres peuvent être liés à l'actualisation. Ce que je peux vous dire, c'est que de manière générale, on n'a pas vu d'envolée aujourd'hui des taux d'actualisation, alors que ce soit dans des contextes de performance normale ou de contextes de sous-performance, parce que ce taux d'actualisation, il est quand même calculé sur la base de paramètres qui sont calculés sur un temps long. Donc on regarde beaucoup sur un historique très long et on essaye justement d'avoir des paramètres qui ne bougent pas trop pour ne pas avoir des conséquences sur une valeur long terme d'impact qui sont finalement très court terme. Si maintenant je rebondis un peu sur ce que tu disais Philippe sur les contextes d'intervention, c'est également important d'avoir en tête que finalement on a des méthodes de valorisation qui sont relativement éprouvées, mais que ces méthodes-là, on essaye toujours de les adapter au contexte dans lequel on va intervenir. Alors plutôt que de faire un grand cours sur tous les contextes sur lesquels on peut être amené à intervenir, Effectivement, avec Philippe, on s'est dit qu'on allait prendre quelques exemples très récents qu'on avait pu avoir. Le premier exemple, c'était donc effectivement un groupe qui était en difficulté. Donc négociation avec les banques pour savoir si les banques pouvaient abandonner tout ou partie de leurs dettes. Et puis un contexte avec un actionnaire majoritaire qui est susceptible de remettre au pot pour assurer la continuité d'exploitation et un actionnaire minoritaire qui ne souhaitait pas remettre. Et là, dans ce que je viens de dire, il y a un élément qui est très important, c'est la continuité d'exploitation. Il ne faut pas oublier que toutes les méthodes qu'on utilise, et en particulier la méthode par les cash flows, elles supposent une continuité d'exploitation. Donc si vous enlevez ce postulat de base de l'exercice de valorisation, bah, en fait, vous oubliez toute une partie du risque. Et c'était particulièrement vrai dans cette mission, puisque en fait, nous, on a été amené à faire la valorisation, alors plus pour éviter un conflit d'actionnaires postérieurement à l'augmentation de capital qui allait être faite, dans laquelle seul le majoritaire allait souscrire. Il allait donc diluer de manière très forte l'actionnaire minoritaire. Et pour éviter de se voir reprocher par l'actionnaire minoritaire d'avoir procédé à une augmentation de capital à un prix très décoté, il souhaitait être rassuré, en tout cas avoir un avis indépendant sur la valeur à laquelle il souhaitait faire l'opération. Dans ce contexte-là, il n'y avait pas de difficulté particulière. On faisait un modèle de cash flow, on avait l'IBR, on avait tous les scénarios possibles et imaginables pour justifier de cette valeur-là. Mais il ne fallait pas oublier que ça n'était qu'un seul scénario et qu'on était dans le scénario de continuité d'exploitation. Il y avait un autre scénario qui était que le fonds majoritaire, si le minoritaire n'était pas d'accord pour que l'opération se fasse à ce prix-là, le majoritaire aurait très bien pu dire, dans ces cas-là, je ne fais pas l'augmentation de capital. Et dans ces cas-là, la boîte, globalement, était en état de cessation de paiement, alors, liquidation, je sais pas quel est le bon
terme. Oui, mais enfin, juste pour vous en donner un petit peu plus sur le contexte, et évidemment sans citer le nom de la société, c'est une société qui a connu un sinistre assez significatif et les travaux qu'il fallait engendrer derrière, enfin qui étaient initiés, dépassaient largement en termes de budget le remboursement de l'assurance. Donc la pérennité de l'entreprise pour lequel l'actionnaire, donc vous avez compris, c'était une société sous LBO, l'actionnaire majoritaire, donc lui croyait toujours au fonds de commerce et donc était prêt à financer cette phase de redémarrage pour des montants assez significatifs, mais en contrepartie de dire l'argent que je mets, c'est pas pour rembourser la dette aujourd'hui ou demain, puisque la dette, elle est perdue pour tout le monde, hein, parce que la valeur de l'entreprise à la date, c'était évidemment zéro. Elle était incapable de fonctionner. Et donc, en contrepartie d'un effort important sur en termes d'abandon. Alors, c'est quelque chose d'un peu novateur. C'est l'actionnaire en place qui remet de l'argent et qui obtient des abandons de créances en contrepartie. Donc ça, pour ceux qui ont fait un peu de... Oui, ça arrive. Voilà. Et l'actionnaire minoritaire, vous l'avez compris, c'était l'ancien propriétaire qui était toujours resté au capital et qui avait du mal à suivre. Donc c'était ça le contexte. Et effectivement, sans remise de fonds, pas de continuité d'exploitation. Donc,
en se focalisant uniquement sur le scénario continuité d'exploitation, on oubliait, du point de vue du majoritaire, qu'il y avait quand même un second scénario qui était de dire je ne remets pas. Et donc du coup, là, on était dans une approche liquidative finalement qui revenait à dire je vends les actifs, je rembourse mes passifs et à combien
en l'occurrence, ça aurait été une procédure judiciaire, un redressement judiciaire.
Et alors, un petit aparté par rapport à ça, dans l'approche liquidative qui peut être également une approche qu'on regarde, c'est vrai qu'on a donc valorisé les actifs que la société avait plutôt avec une décote. Que forcément, quand vous devez vendre vos stocks alors que vous devez liquider, on est plutôt sur une valeur potentiellement inférieure à la valeur comptable. Tout petit aparté là-dessus, il ne faut pas oublier les actifs qui ne sont pas au bilan. C'est-à-dire que globalement, quand vous regardez la valeur d'une société sur la base de son actif, vous n'allez avoir au bilan que les actifs classiques, actifs corporels, stocks, créances clients, etc. N'oubliez pas quand même qu'on peut avoir des actifs incorporels qui ont une valeur. Quand bien même la société est sous-performante et potentiellement pas en très grande forme, je pense en particulier à des actifs incorporels qui ont un marché actif et qui peuvent être cessibles. Pensez à des marques, par exemple. Quand vous êtes dans une activité, potentiellement une activité B2C, avec des marques qui peuvent avoir une valeur, indépendamment de la société qui exploite cette marque-là, on peut être amené à donner une valorisation à cette marque-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait dans ce contexte-là. Donc vraiment un contexte de valorisation pour éviter un potentiel litige avec l'actionnaire minoritaire. Et élément également important, dont on parle finalement assez peu en valorisation, c'était la valeur de la dette. Alors la valeur de la dette, Quand vous faites une valorisation classique, dans 99,9% des cas, vous prenez la dette qui est au bilan et vous considérez que la valeur comptable est une bonne approximation de la valeur de marché. Dans le cas présent, ce n'était pas tout à fait vrai parce qu'on avait effectivement un abandon de créance de la part de certains des banquiers, mais avec une clause de retour à meilleure fortune. Et donc, il y a eu la question de s'interroger sur est-ce que cette clause de retour à meilleure fortune a une valeur et de combien ? Alors pour le coup, comme nous, on était dans un contexte où on avait plutôt envie de montrer que la valeur à laquelle le majoritaire entendait faire l'augmentation de capital n'était pas une valeur dégradée, on a considéré que cette clause de retour à meilleure fortune valait zéro. Donc on a fait comme s'il y avait un abandon total, donc comme si cette dette ne valait rien, et donc on a plutôt maximisé la valeur. Si on avait dû faire une estimation de la valeur de cette dette, ça aurait été possible, hein. Et là, on serait rentré dans des modèles, alors plutôt des modèles optionnels. C'est un peu ce qu'on voit dans les management package, d'ailleurs. Hein, c'est globalement, c'était très lié à la capacité du fonds majoritaire de faire deux fois, trois fois sa mise. Si je fais deux fois ma mise, je te rétrocède une partie. Ça, c'est un peu le management package. Là, c'était si je fais effectivement deux fois ma mise, j'accepte que la clause de retour à meilleure fortune s'active. Là, on revient sur des notions un petit peu de scénario, mais alors sur des bases de scénario où on fait un très, très grand nombre de tirages. Donc voilà pour ce premier contexte, donc qui était très intéressant à nouveau avec cette partie dette qu'on voit pas forcément. Le deuxième contexte qu'on voulait évoquer avec vous et qui est assez parlant également, là on était plutôt sur un groupe avec pas mal de difficultés en France, mais des filiales à l'étranger qui marchaient bien. Et donc finalement, une valorisation qui intégrait un certain nombre de concepts assez intéressants. Alors le premier, c'est qu'on a fait une valorisation non pas du groupe pris de manière globale, mais on a fait une valorisation par somme des parties. Donc par somme des parties, c'est ajouter les différents actifs ou les différentes activités que le groupe réalise. Et là, ce qui était particulièrement important, c'était de montrer la valeur des filiales qui marchaient plutôt bien. Alors pourquoi est-ce qu'on a raisonné comme ça ? Quand c'était les fameuses classes de parties affectées où moi je ne comprenais rien au départ. Mais globalement, comme il y avait la notion de best interest, il fallait effectivement montrer que le plan qui allait être mis en place ne lésait pas un certain nombre de parties prenantes et qu'il fallait mieux faire le plan que ne pas le faire du tout. Et ne pas faire le plan, ça voulait finalement dire liquider mes actifs. Et dans mes actifs, j'avais ces fameuses filiales qui allaient bien. Donc, il fallait s'interroger sur la valeur de ces filiales-là. Alors, dans un contexte pas totalement normal, parce que je peux valoriser ma filiale comme elles allaient bien, j'avais utilisé les méthodes par les multiples classiques, je n'avais pas de raison de ne pas utiliser ces méthodes-là. En revanche, on s'est interrogé sur le niveau de décote potentiel qu'il fallait appliquer, parce que si la maison mère va mal et qu'elle est forcée de vendre, est-ce que je suis capable de vendre au même prix que si je n'étais pas forcé de vendre ? Et cette notion de vente forcée, elle peut avoir un impact sur la valeur via une décote potentielle qui peut être appliquée. Donc il y avait ces notions un peu de vente forcée. Et de la même manière que dans le premier contexte, on s'était interrogé sur la valeur de la dette, là, on avait beaucoup regardé le waterfall, c'est-à-dire que globalement, en fonction de la valeur qu'on donnait au groupe dans son ensemble, comment cette valeur-là était réparti entre les différents créanciers, actionnaires, etc. C'est vrai que nous, quand on fait des valorisations, souvent on fait la valorisation à 100%. Finalement, peu importe la façon dont cette valeur est répartie entre les actionnaires, dès que vous commencez à avoir des classes d'actions différentes, des actions ordinaires, des actions de préférence, des OC, etc. Et là, je pense qu'on avait un cas d'école avec un nombre de classes d'actions assez pharaonique et donc des priorités de tel ou tel créancier par rapport à tel autre, jusqu'à telle valeur, c'est telle classe d'actions qui est servie, puis au-dessus de telle valeur, c'est telle autre classe d'actions. Donc là, on est vraiment allé jusqu'au waterfall pour pouvoir mesurer finalement sur cette valeur à 100%. Comment allait se répartir cette valeur à 100%?
Juste le waterfall, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, parce qu'effectivement, là, on est plutôt entre spécialistes. Le waterfall, c'est donc dans les contextes de restructuration. En l'occurrence, vous l'avez peut-être compris, mais ce n'était pas la première restructuration, d'où la structuration un peu complexe. Et puis, c'est un groupe assez conséquent. Donc effectivement, il y a eu... C'était la troisième ou quatrième troisième conciliation, je crois. Mais en plusieurs années hein, quand même. Et donc le waterfall, c'est au fur et à mesure des efforts des uns et des autres dans les différentes conciliations, c'est de mettre un rang de remboursement Donc en règle générale, celui qu'on voit en premier, c'est celui qui a remis de la new money dans les contextes de restructuration, et puis ainsi de suite. Donc c'est quelque part, ça respecte en partie les liens de subordination, donc entre les juniors et les seniors, les dettes juniors et les dettes seniors, mais ça intègre aussi un certain nombre de paramètres qui résultent des restructurations précédentes. Donc waterfall, c'est que rang zéro, parce que souvent ça commence au rang zéro, c'est tel créancier qui sera au premier euro, c'est lui qui est remboursé jusqu'à ce qu'on lui doit, et on passe au rang 1, rang 2, rang 3. Le waterfall, donc en français dans le texte, c'est la répartition successive de l'argent qui résulterait d'une vente et de l'affecter aux différents créanciers.
Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, là, quand tu parlais de valeur post-restructuration, c'est vrai qu'on s'est aussi interrogé sur les conséquences éventuelles d'un carve-out, hein, donc d'une cession de mes filiales étrangères. Parce que quand bien même on avait fait une valorisation, comme je vous l'ai dit, par somme des parties, donc en valorisant chacune des sociétés finalement prises indépendamment, il y a un moment, il faut quand même être certain que je cède mon distributeur italien. Est-ce que pour autant, je ne détruis pas de la valeur, moi, en tant qu'entité française, parce que je vais devoir trouver un nouveau distributeur, etc. Donc il y a aussi quand même, par capillarité finalement, le fait de se défaire de tel ou tel actif, est-ce que ça ne va pas avoir quand même un impact que j'ai peut-être mal mesuré sur ma maison mère ou sur la filiale qui peut-être ne va pas avoir non plus tous les le même support technique de la maison mère, les mêmes, là pour le coup elles étaient relativement indépendantes, mais il fallait quand même se poser la question. Et peut-être rapidement le dernier contexte dans lequel on était intervenu, alors qui était également un petit peu particulier. Là, c'était plutôt une société qui finalement avait reçu des offres d'intérêt d'un de ses concurrents. Évidemment qui était en difficulté et qui avait décidé donc l'actionnaire fondateur et dirigeant avait décidé de refuser la dernière offre, ce qui avait pu générer potentiellement un certain nombre d'incompréhensions, de crispations de la part des partenaires bancaires.
Juste, si tu permets, parce qu'effectivement cette phase-là, je l'ai un peu vécu avant toi. Donc effectivement, dans le cadre d'une restructuration avec ses partenaires bancaires, un repreneur un peu plus gros que lui s'était positionné et avait fait une offre. Sauf que on sait tous, dans ce genre de contexte, que la négociation dure et que dans les dossiers de restructuration, force potentiellement la valeur, enfin, ou plutôt la performance, peut ne pas se réaliser comme prévu. Donc, c'est-à-dire, plus le dossier de restructuration durait et plus la valeur proposée par ce potentiel investisseur diminuait. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le dirigeant actionnaire, seul actionnaire de la société, qui pouvait être intéressé par le prix de départ, le prix avait été dégradé, alors avec des justifications à l'appui, mais est-ce que c'était justifié pour lui ou pas, ça c'était la question, mais à la fin du jour, il a refusé l'offre parce qu'il la considérait trop basse. Et donc là, les créanciers ont été un peu frustrés puisqu'ils avaient potentiellement une solution avec un investisseur un peu plus gros qui, quelque part, assurait la pérennité de la société. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé dans un contexte de restructuration un petit peu tendu où il n'y avait plus d'injection de new money, plus d'investisseurs, et on devait négocier donc avec l'actionnaire en place qui ne voulait pas remettre d'argent. Donc c'est pour ça que le contexte était un peu tendu.
Donc là, l'idée, c'est plutôt de rassurer les banques et de leur confirmer... après avoir fait vraiment les choses de manière indépendante, que effectivement la dernière offre qui avait été proposée pouvait apparaître comme une offre un peu en dessous, voire assez largement en dessous de la valeur de marché que nous on pouvait estimer sur la base des différentes méthodes qu'on a pu évoquer. Bon, et puis après il y a aussi un sentiment qui était que cet éventuel repreneur avait probablement vu la possibilité de faire une bonne opération financière effectivement en profitant des difficultés pour acheter à un prix notoirement en dessous de ce qu'on pouvait estimer comme étant le prix de marché. Donc voilà un petit peu pour les trois exemples qu'on voulait partager avec vous.
Et il y a j'ai d'autres cas qu'on rencontre quand même pas mal en restructuring. C'est des cessions à prix négatif. J'ai ça en tête. Là, on ne parle pas tellement de valorisation. On valorise autre chose ou on évalue autre chose?
Oui, alors ça, ça va plus chez moi, c'est moins de l'évaluation classique, c'est ce que j'appelle un peu le hard restructuring, c'est-à-dire, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, hein. Du coup, c'est effectivement de dire, bon, là, quand il y a un EBITDA négatif, que par construction, les titres, on sait que ça vaut rien, voire ça vaut moins quelque chose, Ça peut être le cas, hein. Ça veut dire qu'on peut demander au vendeur de remettre, enfin de faire un chèque ou de remettre de l'argent avant la session. Donc comment on approche dans ce contexte-là la valorisation ? Là, je crois qu'il n'y a plus aucune méthode vraiment qui s'applique. Et là, c'est plus une approche pragmatique que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. Et c'est plus une approche côté repreneur. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder le dossier en disant « c'est pas tant ce que je vais mettre pour les actions, on sait qu'on va rien mettre. C'est plutôt combien me coûte la reprise ?» En fait, c'est plutôt comme ça qu'on approche le sujet. Et c'est de dire « ok, alors c'est valable dans les contextes in bonis, ça peut être aussi valable dans les contextes judiciaires, hein, le plan de reprise à la barre du tribunal. » Ou là, même là, c'est encore un autre contexte, on pourra y revenir, mais c'est de dire, alors quand je suis repreneur, comment je valorise ? Donc je valorise en disant combien ça me coûte d'apurer la situation dégradée qui s'offre à moi au moment où j'arrive. Parce que forcément, ces dossiers-là, ils arrivent avec du retard fiscal, social, fournisseur, bancaire et autres. Donc quelle est mon enveloppe, entre guillemets que je consacre au service de la dette au sens large, dont une partie que je vais devoir régler rapidement, puisque si j'ai du passif fournisseur, ils ne vont pas me laisser vivre avec du retard fournisseur pendant très longtemps. Le deuxième axe de chiffrage, c'est combien me coûtent les mesures de restructuration que la société n'a pas pu mettre en œuvre parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et donc, pour revenir à l'équilibre, combien ça me coûte ? Donc, je vais chiffrer mes mesures de restructuration, c'est le deuxième axe, donc appurement du passif, chiffrage des mesures de restructuration. Et le troisième axe, c'est que entre le moment où je fais mon étude et le moment où je suis revenu à l'équilibre après le plein effet des mesures de restructuration, il se passe un peu de temps et j'ai des pertes intercalaires à financer. Donc, c'est la somme de ces trois items qui fait quelque part la valorisation de reprise, en fait. C'est mon prix de reprise. Alors le terme valo est un peu pompeux, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors évidemment, dans les contextes judiciaires, le premier point d'appurement du passif, en général, il est assez facile à faire puisqu'on ne reprend pas le passif. Mais l'approche est globalement la même. Et puis après, et c'est là où on peut rebondir et se retourner vers Mathieu pour lui recéder la parole, mais c'est de dire, une fois que j'ai retourné ma boîte, ça peut prendre un certain temps et ça me fait penser que je voulais ajouter une chose importante. Reprendre une boîte en difficulté, c'est un peu comme faire des travaux chez soi. En fait, il faut toujours avoir une enveloppe de surcoût non anticipée au départ parce que ça prend toujours plus de temps et ça coûte toujours plus cher que prévu. Donc c'est un conseil que l'on donne à nos clients repreneurs, c'est de dire si vous chiffrez le coût de tout ce que je vous ai dit avant à X millions, prévoyez X plus quelque chose de millions. Voilà. Et donc une fois que le retournement est avéré, donc ça peut prendre en général même parfois plusieurs années, souvent. Après tout dépend de quel contexte on parle. La société est redevenue une bonisse et a retrouvé de la valeur. Et donc là, on revient sur une valorisation plus classique et se pose la question du retour sur investissement par rapport à l'argent qui a été investi au départ.
En fait, c'est exactement comme ça qu'on raisonne. Alors, dans ces contextes-là, effectivement, il n'est pas nécessaire et il n'est pas question finalement de vouloir donner une valeur à aujourd'hui à la société. A priori, on ne valorise finalement que par les coûts que ça va générer pour le repreneur. En revanche, vous pouvez quand même réfléchir avec le repreneur sur l'intérêt pour lui de faire ou non la reprise. Et l'intérêt pour lui, ça va être vraiment une notion de rendement finalement. Ça va être de se dire ok, je sais que je vais avoir beaucoup d'argent à remettre dedans aujourd'hui et comme tu le disais potentiellement au fil de l'eau pour retrouver une rentabilité. En général, les repreneurs ne sont pas philanthropes, donc s'ils font ça, c'est qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt pour eux, c'est de réussir le retournement et que finalement, l'argent qu'ils auront injecté leur rapportera un rendement très significatif. Alors très significatif, pourquoi ? Parce qu'ils auront pris beaucoup de risques, beaucoup plus de risques que d'investir dans une société in bonis. Et donc finalement, nous, on peut être amené, et on a pu le faire ensemble, à regarder finalement, non pas la valeur à aujourd'hui de la société, à nouveau on s'en fiche un peu, mais la valeur que la société pourrait avoir dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, une fois que son retournement aura été réussi. Et là, à nouveau, on peut refaire appel à nos méthodes de valorisation classiques parce qu'on a retrouvé finalement une sorte de stabilité financière. Donc, c'est beaucoup plus simple. Alors, certes, on se met dans un scénario où le retournement est réussi. Et donc, finalement, on va vraiment raisonner en rendement en se disant j'ai beaucoup de moins à financer aujourd'hui. Potentiellement, ça peut valoir beaucoup d'argent une fois que j'aurai réussi le retournement. Finalement, est-ce que entre le moins que j'ai certains aujourd'hui et le plus que j'ai potentiel, je réalise un retour sur investissement, et c'est vrai qu'il y a cette notion de TRI, hein, de taux de rendement interne, suffisant pour justifier que j'investisse dans cette société-là. Après, la question, c'est quel est le taux de rendement suffisant ? Si vous arrivez à un taux de rendement de 10% par an sur les 5 ans, c'est certain qu'il ne faut pas y aller. Parce que 10%, c'est globalement le taux de rendement que vous attendez quand vous investissez dans une société aujourd'hui de taille relativement significative. Donc, vu le risque que vous prenez, un taux de 10% n'est certainement pas suffisant. Un taux de 15% n'est pas très bien rémunéré non plus. Le taux de 15%, c'est aujourd'hui le taux minimum qu'un fonds d'investissement attend dans une société qui est en très bonne santé. Donc finalement, on va arriver à des taux de rendement exigés par le repreneur. On va beaucoup plus être sur des zones de 20, 25, 30% par an. Et finalement, c'est assez marrant parce que c'est un contexte que nous, on retrouve quand on fait de la valorisation de start-up. Donc, rien à voir avec de la société en retournement. En revanche, c'est assez similaire dans le principe avec une start-up. Vous devez beaucoup financer au départ et vous financez beaucoup au départ pour beaucoup gagner à la fin. Et donc, nous, quand on est amené à faire de la valorisation de start-up, c'est exactement comme ça qu'on raisonne. Moi, je dis en général à mes clients, je suis incapable de vous dire combien vaut la start-up aujourd'hui, sinon à vous dire que ça vaut ce qu'un investisseur sera prêt à vous acheter potentiellement. En revanche, je peux vous dire combien ça vaut dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, si vous réussissez à pénétrer le marché que vous voulez pénétrer, là, à ce moment-là, ça peut valoir pas mal d'argent. En revanche, soyez certain que si vous dites que la société vaudra peut-être 20, 30, 40 millions dans 5 ans, à aujourd'hui, elle vaut potentiellement 10 fois moins. Parce que dans un contexte de start-up d'amorçage, là on est vraiment sur des start-up qui n'ont pas encore forcément même la proof of concept, les investisseurs ils vont réclamer de faire du x10. Donc finalement, on a vraiment des taux de rendement qui peuvent être très importants. x10 sur 5 ans, vous êtes sur les taux de rendement autour de 40 à 50% par an. Donc vous voyez que l'échelle peut être importante. Là, on manque un petit peu de benchmark, pour être tout à fait transparent, c'est-à-dire finalement de se dire, est-ce que je suis capable de regarder des reprises qui ont été réussies et finalement le repreneur, quel est le rendement qu'il a pu faire, et donc d'essayer de prendre les choses finalement à l'envers en se disant, je connais la poche de coûts que je vais devoir engager, je connais finalement la valeur à laquelle je veux arriver dans 4-5 ans, je regarde le rendement, est-ce que ce rendement est suffisant ou pas. Comme vous l'avez compris, on a à peu près les grandes bornes. Moins de 15-20%, on va plutôt ne pas y aller. Ou alors, il faut revoir la poche de financement et se dire qu'il faut la diminuer. Quand on commence à atteindre des rendements de 20, 25, 30%, là, on rémunère bien le risque du repreneur. Et donc, finalement, on peut être amené à conseiller à notre client de se dire il y a peut-être un bon coup à faire, qui n'est certainement pas gagné. Hein, mais en tout cas, en termes de taux de rendement, le risque que tu prends est bien rémunéré.
Juste pour rebondir sur les startups, là, finalement, quand tu as une startup qui est en difficulté, généralement parce qu'elle a un manque d'investissement, etc., tu peux appliquer à peu près les mêmes méthodes qu'une startup qui rechercherait des nouveaux investissements et qui ne serait pas spécialement
Alors, la méthode est tout à fait valable. Après, si la startup est déjà en difficulté au bout de 2 ans, on va avoir du mal à trouver des investisseurs.
Merci.
Alors oui, non, parce que j'ai un exemple. Alors, tu vois, t'es pas intervenu
sur restructuring de start-up,
de start-up déjà où il y a eu quelques fonds engagés, et dans ce cas-là, à un moment donné, l'actionnaire, quand la montée en puissance et l'atteinte de la première année de rentabilité est un peu plus longue que prévu, l'investisseur dans ce contexte-là, il a mis le doigt dedans. Donc la question, c'est j'ai mis tant. Est-ce que je remets encore pour donner les trucs ou est-ce que j'arrête là ? Donc c'est plutôt un arbitrage plus qu'une valorisation, c'est plutôt comme ça que ça se passe.
Merci, je vous propose qu'on continue à discuter autour d'un petit verre proposé par Odéris.
Je prends le délai.